Amis auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau Libre Journal, le Libre Journal d'Hux Sérapion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Émission préenregistrée, mais vos messages, selon la formule consacrée, seront toujours les bienvenus. La droite et la gauche, au-delà des idées partisanes, s'enracinent dans une histoire individuelle, mais aussi une histoire collective, une geste collective. C'est donc une sorte de démarche sociologique que de s'intéresser à cet ethos, et notamment cet ethos de droite. Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Tuc Duhal-Denis. Tuc Duhal-Denis, bonjour.
Bonjour à tous vos auditeurs et bonjour Hugues.
Merci beaucoup Tuc Duhal d'avoir accepté à nouveau de venir vous exprimer à mon micro. Vous êtes, rappelons-le pour nos auditeurs, le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles et également, notamment, éditorialiste pour BFM TV. Et merci pour d'avoir accepté mon invitation. J'ai le plaisir de vous re-recevoir, je dirais, puisqu'il y a déjà quelques années, j'avais eu le plaisir de vous recevoir autour de votre ouvrage sur François Fillon. Et justement, vous vous êtes intéressé à ce fameux ethos de droite ou de la droite au travers d'un ouvrage, qui vient de paraître. Et celui-ci s'intitule « La cendre et le feu ». Enquête intime au cœur de la droite française, un récit édité par Robert Laffont et donc dont l'auteur est Tuc Duhal-Denis, ici présent. Alors il s'agit d'un livre très particulier, je dirais même très personnel, à votre image, un mélange d'anecdotes et de descriptions d'un certain nombre de nos hommes politiques de droite. Et justement, j'ai un peu envie de vous demander, mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre, comme je le disais, finalement, assez, voire très personnel ?
J'étais habité par plusieurs choses. La première chose, c'est une histoire familiale. J'ai grandi à Louveciennes, en banlieue parisienne, à l'ouest de Paris, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye, dans une famille de 6 enfants, où nous allions à la messe en latin le dimanche, où on a fait du scoutisme. Classique, très classique. On allait dans les écoles privées que chacun peut connaître dans ces coins-là. Et j'ai grandi en ayant conscience, devant une certaine évidence, que nous étions devenus des anomalies, que nous vivions dans un milieu hypertrophié, archétypal, caricaturé, et que tout cela fournissait de la matière pour un livre et tenter d'écrire le roman de la droite. La deuxième chose qui m'a habité, c'est l'opprobre social qu'on peut vivre quand on est de droite. J'ai perdu pas mal d'amis en étant directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Et je constate tous les jours qu'il nous arrive d'avoir des traitements de défaveur. Et donc j'ai voulu faire un livre, non pas de combat, mais de réparation. Réparation de l'image que j'ai parfois moi-même du milieu dont je venais. Et réparation de l'image que les autres pouvaient projeter sur nous, que ce soit quand j'étais enfant par rapport à l'image qu'on pouvait renvoyer dans la société et en tant que journaliste par rapport à la singularité qu'on représente dans le monde médiatique et politique.
Alors Tuc Duhal-Denis, permettez-moi de confesser que je n'avais pas imaginé que vous étiez d'une famille... Alors, je ne sais pas s'il faut dire aussi à droite, je préfère dire aussi traditionnel, parce que c'est un petit peu différent, je crois. Et de fait, je vais même un peu plus loin, lorsque vous m'aviez fait l'amitié de venir à ce micro, je ne m'étais même pas posé la question, parce que pour moi, ce qui compte, voilà, contre Sainte-Beuve, en quelque sorte, c'est ce que la personne a à dire et ce qu'elle a à écrire. Et j'ai un peu envie de dire, peu importe son parcours personnel. Donc ça, c'est la première remarque, ça ne m'a pas intéressé. Et d'ailleurs, il y a là une sorte de... Alors je vais tout de suite aller ce qu'on appelle la montée aux extrêmes, vous savez. Il y a une sorte de ségrégation, voire de racialisme, finalement chez nos ennemis, qui s'intéressent de façon morbide, fascinée, par les origines de la personne. Les origines, mais d'où viens-tu? D'où parles-tu, camarade? Je trouve que d'ores et déjà, il y a une sorte de hiatus entre ce discours prétendument universel et la réalité vécue au quotidien. Et moi, permettez-moi là aussi, parce que comme vous avez eu le courage de faire un livre d'une certaine façon de confession, et bien moi aussi de vous parler assez librement, je vous trouve, bien indulgent et bien généreux vis-à-vis de nos ennemis. Et c'est quelqu'un qui vient d'une droite beaucoup moins radicale, parce que je ne me suis pas du tout retrouvé dans votre parcours. Moi, j'ai un parcours personnel, je ne veux pas trop en parler, mais voilà, d'une moyenne bourgeoisie qui n'avait jamais fait de messe en latin, qui n'avait jamais été... Je ne sais même pas si elle était vraiment de droite. On va dire qu'elle était conservatrice. Voilà, mais mon père a toujours lu Le Monde et La Croix.
Moi, il lisait Le Monde et Le Figaro.
Bon, mais du temps où Le Monde était lisible. Qu'est-ce que cela vous inspire, tout cela ?
Mon indulgence vis-à-vis de nos adversaires.
Bah, finalement, tout cela parce que, encore une fois, mon idée est toujours de partir du singulier pour aller à l'universel.
Oui, bah, c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe des témoignages. C'est qu'ils sont parfois plus parlants, bien qu'ils représentent... des destins individuels que des descriptions plus collectives et plus scientifiques. Moi, je suis indulgent parce que j'écris pas des livres pour faire la guerre. Ça peut paraître un peu bini-oui-oui, mais au contraire, plutôt pour faire la paix, pour réhabiliter, pour donner envie. Je pense que la droite de l'indignation, du combat permanent, de certains réflexes pavloviens très défensifs ou voire très agressifs n'est pas celle qui parviendra à convaincre le plus ni ses amis ni ses adversaires. Je pense aussi que il y a beaucoup de moments dans le livre où j'explique que finalement ce que je craignais n'est pas devenu. Je m'explique. J'ai grandi dans un milieu où on pensait que le milieu du cinéma, des arts nous était totalement proscrit. Et finalement, je me suis retrouvé à l'âge de 20 ans, stagiaire à 20h10 pétante, l'émission de Stéphane Bern sur Canal+. Je suis allé pendant 2 semaines au Festival de Cannes faire toutes les fêtes qu'on peut faire là-bas quand on travaille dans des sociétés de production individuelle, audiovisuelle, en croisant des acteurs américains ou des acteurs français, en me retrouvant entre Luc Besson, Gérard Jugnot ou Steven Seagal dans des soirées ou dans des couloirs d'hôtel. Je me suis retrouvé avec des gens qui venaient pas du tout du même milieu que moi, qui pensaient pas du tout la même chose que mes parents et qui étaient tout à fait accueillants. Je me suis construit en tant que journaliste politique en étant rubricard à l'Express, au Point, à Valeurs Actuelles, en traitant des partis politiques aussi variés que sont la France Insoumise, qui s'appelait à l'époque le Parti de Gauche, Horizon d'Édouard Philippe, les Républicains et puis évidemment aussi le Rassemblement National. Et là encore, partout, j'ai rencontré des personnalités à la qualité assez inégalée. Je ne partage pas du tout une forme de pathologie classique des journalistes politiques parisiens qui est d'être avant tout dans la répulsion à l'égard du sujet qu'ils traitent. J'adore les hommes politiques, j'adore les fréquenter. Je trouve que c'est des gens souvent de très grande qualité. Alors, je vous avoue que plus le temps passe, moins ce que je dis est vrai, mais en sens de générationnel. Mais en tout cas, j'ai eu la chance quand même de pouvoir fréquenter... François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, François Fillon, Édouard Philippe et bien d'autres. Maintenant, ça ne veut pas du tout dire que je partage leurs idées, mais ça veut dire que j'aime les territoires qu'ils me permettent d'explorer, j'aime leur compagnie, j'aime les discussions qu'ils suscitent, j'aime leur expertise et j'ai de l'estime pour effectivement le métier ou la vocation qui est la leur. Et dans le monde journalistique, je dois avouer que j'ai été, à ma grande surprise, plutôt bien accueilli dès le début. Alors j'avais une forme de taquia, entre guillemets, c'est-à-dire que je ne me suis pas avancé dans les rédactions en disant « je viens d'une famille qui votait très à droite et qui allait à la messe en latin ». Mais je n'ai pas non plus caché quand il fallait parler de ça. Et je crois vraiment... au bénéfice de l'authenticité. C'est-à-dire que dans mon livre, j'ai eu la chance, là, dans le cadre de cette promotion, outre des invitations avantageuses sur Radio Courtoisie, j'ai eu la chance d'avoir des papiers dans Mediapart, dans l'Express, dans Le Point, sur France Info, avec des philosophes de gauche qui m'ont reçu. Et en fait, à partir du moment où on est sincère, authentique, et on n'a rien à cacher, et dans ce livre que vous avez lu, vous avez vu que je ne cache rien du scoutisme paramilitaire que j'ai pratiqué, je ne cache rien des autocollants de Jean-Marie Le Pen que j'ai collés quand j'étais collégien, ou même de la fascination que je pouvais éprouver en tant que voisin de Montretout, puisque j'allais au collège à Saint-Cloud et que 400 mètres séparaient mon collège de la résidence privée de Jean-Marie Le Pen. Et on allait l'espionner avec quelques camarades, passer dans sa Renault 25 Baccarat aux vitres teintées. J'ai raconté tout ça dans ce livre. Et je crois que j'ai eu la chance d'avoir un accueil plutôt favorable de la part de certains confrères, parce que je crois que ce qui manque à gauche comme à droite, c'est l'authenticité. On pourrait, si on voit le verre à moitié vide, on pourrait dire faut se dénoncer soi-même avant de pouvoir...
D'être dénoncé.
Voilà, exactement, avant d'être dénoncé. D'ailleurs, je préfère le faire moi-même, effectivement, que le laisser à d'autres, le soin de le faire avec des fantasmes, un champ lexical qui, en général, est toujours un peu exagéré nous concernant. Mais vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit au tout début, c'était pas un livre de combat, moi, c'est un livre de réparation. Je pense vraiment que la droite mérite d'être mise en valeur, mérite d'être mise en scène, que la gauche a très bien su vendre ses microcosmes, et a commencé par la gauche caviar, la gauche germanopratine, certes dénoncée et moquée, mais finalement tant désirée, tant enviée.
Oui, désirée.
Influente, ayant droit à tous les prix littéraires, ayant le droit aux meilleures auberges et au meilleur compagnonnage. Et la droite a trop baissé la tête. Or, de la plaine de la Beauce incisée par les pèlerins de Chartres jusqu'aux marches du Mont-Saint-Michel, gravies par mon grand-père paternel, dont je parle dans un de mes chapitres, des soutanes, un peu à contre-temps de mon frère prêtre, en passant par la demeure sartoise de François Fillon, des cimes des Pyrénées... arpenté, en tout cas en contrebas, avec François Bayrou pour discuter de Bernanos, en passant par des discussions que j'ai pu avoir avec Thierry Ardisson sur ce qui était devenu la droite, y compris médiatique, du comte de Paris, Henri d'Orléans, dont je parle dans ce livre, jusqu'à la manière dont Marine Le Pen a vécu les obsèques et les doubles obsèques de son père à la Trinité-sur-Mer ou au Val-de-Grâce à Paris. Je crois qu'il y a des mythologies de la droite à redonner, à offrir, je dirais, même à nos adversaires. Moi, j'ai écrit ce livre pour qu'à la fois nos amis se reconnaissent, mais aussi pour que nos adversaires apprennent à nous connaître. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire sur nous-mêmes, qui, si on le fait avec authenticité, sincérité, justement, sans essayer de plaire, sans essayer de masquer ce qui pourrait déplaire, on peut, j'espère, parvenir à convaincre que, effectivement, la droite est magnifique. Et quant à moi, elle m'a offert mes expériences les plus mémorables.
Alors, une droite, mais si j'ose dire, une partie seulement de la droite, une droite assez typée, puisque je le disais modestement en introduction, ce n'est pas ma droite. Moi, je viens d'une droite plus libérale, moins engagée, ou plus exactement, je viens d'un milieu, puisque c'est aussi l'histoire d'un milieu que vous nous contez. Et j'ai envie de dire, vous avez fait une partie du travail, mais il faudrait peut-être justement le faire pour l'ensemble de ces différentes familles de la droite qui... en réalité, sous des expériences de vie différentes, sont à la fois complémentaires et également participent quand même, pour reprendre votre expression d'éthos, de valeurs communes, beaucoup plus peut-être que la gauche, c'est-à-dire le respect de l'autre, le respect de la personne humaine, le respect du travail, la volonté que la France poursuive, etc., quelle que soit ensuite l'analyse qu'ils font et les conséquences politiques qu'ils en tirent. Et donc j'ai envie de dire, mais... est-ce que vous n'avez pas peur, en parlant, mais vous n'y êtes pour rien, c'était votre milieu, de redonner une forme de ghetto, et c'est un journaliste de Radio Courtoisie qui vous interroge là-dessus, en présentant une partie un petit peu, sinon caricaturale, en tout cas archétypale, de la droite qui n'est pas toute la droite, qui n'est pas toutes les expériences, et notamment, moi je me souviens, en rencontrant des gens comme vous quand j'avais 20 ans, même 17 ans, que je m'éveillais à la chose politique, alors moi justement j'étais fasciné en me disant, mais il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir un milieu qui leur a transmis ça, et moi c'est pas le cas, j'ai dû me construire intellectuellement tout seul avec mes bouquins...
C'est sûr que moi, j'étais élevé dans une famille où on écoutait Radio Courtoisie du matin au soir. Et que donc, ce que vous décrivez est totalement la réalité de ce que j'ai pu vivre étant enfant. Maintenant, donc, ce milieu que je décris, qui écoutait Radio Courtoisie, allait à la messe en latin et lisait les livres qu'il fallait en fréquentant les écoles qu'il fallait. C'est la partie personnelle de mon livre. Et encore que dans cette partie personnelle, vous aurez noté qu'il y a quelques éléments d'émancipation de ma part, puisque...
ce n'est rien que de le dire.
Puisque, voilà, j'ai eu, comme on dit, une forme de crise d'adolescence que j'estime rétrospectivement utile et nécessaire, voire salvatrice. Je raconte un voyage à Cuba où j'ai croisé Angela Davis, qui est une sorte de Malcolm X au féminin. Je raconte avoir rencontré dans ma vie, en travaillant dans le monde du cinéma ou dans le monde du spectacle vivant, sur des concerts de Johnny Hallyday ou des spectacles de Kamel Wally, tout un tas de gens. Je raconte avoir voté Eva Jolie, avoir fumé des joints. Je raconte avoir écouté des musiques qui n'étaient pas celles qu'on m'avait indiquées quand j'étais jeune. Je raconte aussi que les femmes de ma vie, en tout cas trois femmes dont je dresse le portrait, dont ma femme, ma vraie épouse, entre guillemets, m'ont permis de justement, de peut-être suivre des chemins moins attendus. Et c'est le point commun qu'elles ont toutes, en tout cas, et qu'elles ont, le rôle qu'elles ont toutes joué en essayant, entre guillemets, de peut-être de m'apaiser ou de me rendre moins prévisible. Maintenant, vous aurez noté aussi que dans ce livre, vous trouvez des personnages aussi variés que Marion Maréchal ou Édouard Philippe, François Bayrou et Thierry Ardisson. Et en fait, chacun est évidemment une droite très différente. Et j'ai même inclus Marine Le Pen dedans, parce que Marine Le Pen refuse de se déclarer de droite. Mais moi, justement, je me suis affranchi des herses artificielles qu'on dresse en général entre les droites. Certes, bien séparées, bien cloisonnées, entre les différents partis politiques qui aujourd'hui composent l'échiquier. Mais Marine Le Pen, c'est pas ma droite à moi, parce que Marine Le Pen, même si on a grandi au même endroit, moi évidemment, mes parents étaient d'une forme de bourgeoisie assez conventionnelle, catholique, intégrale, et elle, pour reprendre la formule de Bergson qui dit que la philosophie d'un homme, c'est d'abord sa biographie, en l'occurrence sa biographie à elle, c'est celle d'une jeune femme qui a connu l'hostilité de la banlieue ouest, parce que c'était pas chic de s'appeler Le Pen, parce que l'évêque qui devait assurer sa confirmation à l'adolescence lui a demandé de le faire sous un nom d'emprunt, parce que quand elle arrivait au lycée Florent Schmitt à Saint-Cloud le lendemain des révélations de libération, d'éventuelles compromissions de Jean-Marie Le Pen dans des actes de torture pendant la guerre d'Algérie, il lui a fallu affronter l'hostilité de la classe, mais surtout des professeurs, et parce que les curés l'ont toujours battu froid. Et donc, Marine Le Pen, c'est une autre droite que la mienne, alors qu'on a grandi à 150 mètres, si vous me permettez l'expression, de distance. Édouard Philippe, dans mon livre, on a des conversations au Havre, où on marche tous les deux, et il explique, en niant l'évidence, que la droite, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Puis après, il revient un peu sur ce qu'il dit en disant « Mais la droite, quelle droite ?» Parce qu'il n'y a pas une droite, il y a des droites. Alors évidemment, ça l'arrange qu'il y ait des droites, parce qu'il ne peut pas se définir lui-même en mettant la droite. Puis après, il me dit, je le relate dans le livre, qu'il ne va pas faire ce cadeau à cet adversaire de se déclarer de droite, puisqu'il y a tellement de gens de droite qui pensent qu'il ne l'est pas. Après, il y a François Bayrou qui m'explique, lors d'un voyage à Pau, ou après m'avoir accueilli dans une mairie baignée d'un soleil blanc, et après m'avoir emmené à Bordère, le village où il a grandi et où son père est mort dans un accident de ferme, et où il a retrouvé l'apologie de Socrate, de Platon, sur la table de chevet dans la chambre de son père, et réflexion sur la question juive de Sartre, et pour un paysan, un fermier qui n'avait pas fait d'études. Et on a des discussions avec François Bayrou que je relate dans le livre, où on parle de Bernanos, où il me parle de l'identité française, il me parle de la fascination de la droite pour l'argent, sa dénonciation à lui du matérialisme. Il me rappelle cette phrase de Bernanos dans La France contre les robots en 1947, une phrase absolument fabuleuse où Bernanos écrit « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration contre la vie intérieure ». Et donc François Bayrou me parle de Bernanos pour m'expliquer que la droite, c'est aussi Peggy, c'est aussi Bernanos, c'est aussi le refus de l'argent, c'est aussi l'intériorité qu'on ne retrouve pas chez d'autres hommes politiques de droite. Après, j'ai mon compagnonnage avec François Fillon, on y reviendra peut-être. Vous l'avez cité tout à l'heure, qui est une forme de droite à lui tout seul, de l'Ouest, une forme de droite qui a été conventionnelle à un moment, qui s'est re-radicalisée sous l'effet du réel et des obstacles qu'il a pu rencontrer, notamment sur le plan judiciaire pendant la campagne de 2017. Il y a la droite de Thierry Ardisson, qui est une droite buissonnière, un art de droite. voilà, qui t'empêtait un peu contre Bolloré parce qu'il s'était fait virer de Canal, tout en reconnaissant que c'était un peu ridicule de traiter tout le monde d'extrême droite aujourd'hui, y compris CNews.
Y compris lui-même.
Il y a la droite de, une forme de droite de Stéphane Bern. Il y a la droite entre Bruno Retailleau et Philippe Devilliers, qui est une droite très jumelle et pourtant très conflictuelle, parce que sur le plan humain, ils ont trouvé des raisons de se fâcher. Il y a les tensions, entre guillemets, qu'il peut y avoir entre Marion Maréchal et Jordan Bardella, qui prennent aussi leurs racines dans leurs biographies respectives et dans leurs choix idéologiques à eux. Et puis, il y a une droite, effectivement, qui est aussi celle, aujourd'hui, la droite culturelle de Vincent Bolloré, dont je relate les discussions qu'on a pu avoir et qui m'explique... Lui, il ne met pas des mots partisans derrière la droite, mais il m'explique voilà, que ce qui fâche aujourd'hui, c'est que lui, il aime la France et qu'il a juste l'impression d'aimer la France et que c'est ça qui fâche. Et que là où la gauche s'est chassée en meute, il faut que la droite apprenne à faire pareil. Et puis, il y a quand même aussi, puisque vous avez utilisé le mot ethos, moi, je trouve que ce qui me frappe entre tous mes personnages, qu'ils soient publics ou privés, c'est qu'ils ont tous des fidélités et tous des enracinements. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous élus locaux, mais ça veut dire que, quand même, de la Vendée de Philippe Devilliers à la Sarthe de François Fillon, du Morbihan de Marine Le Pen au Havre d'Édouard Philippe, on sent ce besoin de raconter sa France, ce besoin d'être ancré dans des lieux, de les valoriser. Et puis, il y a les stigmates. Il y a cette conversation entre François Fillon et Marine Le Pen au moment de la condamnation de Marine Le Pen il y a quelques mois, dont on aura la décision finale le 7 juillet. Je pense que cette émission est diffusée avant le 7 juillet. Et donc François Fillon écrit à Marine Le Pen en lui disant « Pour l'avoir moi-même connu, je ressens la peine et la colère que vous devez pouvoir ressentir à cette heure. » Et Marine Le Pen lui répond en acquiesçant, en lui disant qu'effectivement, il avait été la première victime de ce mouvement. C'est pour ça que ça s'appelle la cendrée de feu, parce que même si j'essaye de rendre à mon milieu la part de gloire qu'il mérite, le souffle que je ressens et que les gens parfois ne soupçonnent pas, je crois aussi, et il ne faut absolument pas céder aux postures victimaires, mais en revanche, on a le droit d'évoquer les malédictions de la droite. La droite, c'est quand même avant tout des stigmates. Et puisque mon livre picore dans une période qui va de l'après-guerre jusqu'à nos jours, on voit bien en reprenant la frise chronologique de la droite, qu'il y a eu l'épuration sauvage, qu'il y a eu la guerre d'Algérie qui l'a beaucoup fracturé, qu'il y a eu la diabolisation de la famille Le Pen, qu'il y a eu la diabolisation générale de la droite culturelle, qu'il y a eu la falsification de la campagne de François Fillon en 2017 et les enjeux judiciaires et le traitement de défaveur, à mon avis, outrancier qu'il a subi. Qu'il y a eu la diabolisation même du groupe Bolloré, qu'à valeur actuelle, on a connu des polémiques qui étaient parfois très injustifiées. Et on partage tout ça. Et d'ailleurs, pour revenir sur Edouard Philippe, au moment où il avait appelé à la destitution d'Emmanuel Macron, il y a quelque temps, il se trouve qu'on avait déjeuné au Havre peu de temps après, et il m'avait dit « ça y est, maintenant je découvre ce qu'est la vie de Marine Le Pen ». Puisque je découvre ce qu'est la règle du 80-20. Et le 80-20, c'est, me détaille-t-il, quand 80% des gens pensent que tout ce que vous dites est soit d'une banalité confondante, soit frappé au coin du bon sens, soit la vérité. Et donc le fait d'appeler à la destitution d'Emmanuel Macron après sa défaite électorale paraissait quelque chose qui relevait de la logique. Et il me dit, les 20% restants, ce sont, je le confesse, c'est toujours Edouard Philippe qui parle, ce sont les gens que je fréquente à Paris, ce sont voilà, des conseillers d'État, des anciens ministres ou des ministres actuels, des hommes d'affaires, des grands patrons d'entreprises. Et l'intelligentsia, aurait dit Jean-Marie Le Pen. Et ces gens-là, ils pensent
l'establishment.
Que... L'establishment. Ils disaient aussi l'intelligentsia. J'ai suffisamment étudié Jean-Marie Le Pen pour pouvoir...
Vous êtes un meilleur connaisseur que moi. Je l'ai reçu une fois dans une émission qui a un peu fait date parce que ça avait été un peu sportif. Mais bon. Ouais.
J'ai connu quelques petits moments sportifs aussi avec lui, effectivement. Mais donc, lui, tout d'un coup, avait vécu ce que c'est que d'être... pas du bon côté du fleuve, du consensus, quoi, en gros. Et, Et en fait, voilà, on peut tous vivre ça à un moment dans notre vie, à partir du moment où on devient un peu anticonformiste ou tout simplement, basiquement, de droite.
Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que d'une certaine façon, entre guillemets, je vais vous prêter un pouvoir peut-être surhumain, mais vous avez fait l'union des droites à la base avec votre livre, puisque vous parlez de tout le monde et vous montrez d'une certaine façon ce que je disais en introduction, c'est-à-dire le fait que sur les questions essentielles, il y a un accord profond, aussi bien, je pense, chez les hommes politiques, mais surtout chez les électeurs, ou en tout cas les citoyens, qui sont même toujours d'ailleurs se revendiquer eux-mêmes de droite, participent de cette vision largement commune sur les valeurs essentielles. Là où je pense qu'il y aurait quelque chose à faire de plus, mais votre livre peut être un point de départ, c'est que, je l'ai dit en quelques mots, moi qui ne venais pas de cette droite un peu à la fois ostraticisée mais flamboyante, qui était aussi un milieu, hein, moi j'étais tout seul avec mes bouquins comme un idiot, j'avais une fascination pour cette droite et pour cette Weltanschauung, cette vision du monde, ce décorum, etc. Et donc je pense qu'il faudrait là aussi, au contraire, le travailler pour en faire une sorte d'étendard qui permette aux gens de s'agréger, même s'ils ont des idées peut-être plus libérales, etc. Mais à un moment, il y a toujours besoin dans l'histoire, à gauche comme à droite, d'un souffle épique qui dépasse un petit peu la raison, bien que je sois un défenseur acharné de la rationalité et de la raison. Et là aussi, il y a peut-être matière à réflexion. Mais poursuivons, si vous le voulez bien, notre entretien en s'apercevant justement que, et c'est peut-être une question que je peux vous poser d'ores et déjà, cette droite n'est pas au pouvoir, alors qu'elle est structurellement, politiquement majoritaire, et depuis très longtemps, parce qu'il y a des oukases, des interdits, qui sont d'ailleurs beaucoup plus forts que les petites histoires de personnes entre un Villiers et un Retailleau, ou que sais-je encore, qui ne sont peut-être même pas connues du grand public. Donc il y a aussi quand même, hein, vous l'avez dit, depuis l'après-guerre, une succession de tragédies politiques ou de complot au sens large du terme, un complot politique, c'est-à-dire que ce n'est pas caché, mais c'est organisé, qui vise justement à faire que la droite, au sens large, n'arrive pas au pouvoir. Et donc, bon, ça c'est un constat, personne ne peut le nier, puisque la gauche elle-même fait tout pour que la droite ou les droites n'arrivent pas au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'on est au moment où on va voir la fin de cette séparation, de cet ostracisme, ou qu'au contraire, tant à cause du poids de la gauche politique, médiatique, syndicale, dans l'imaginaire collectif, que des inimitiés à droite et des manques de vision historique, eh bien, on va continuer à perdre. Quelle est votre vision ?
Je pense que l'union des droites, elle se fait d'ores et déjà sur le plan charnel. C'est-à-dire qu'effectivement, nous partageons des représentations du monde, des codes sociaux, des musiques, des tenues, des habitudes, et à la fin, un ethos commun qui font que les choses se coagulent et deviennent un peu homogènes. Ensuite, je pense que sur le plan du combat culturel, grâce à des gens comme Jean Sevilla qui ont ouvert la voie il y a déjà bien longtemps en écrivant des livres sur le terrorisme intellectuel, en faisant leur premier plateau chez Ardisson justement à l'époque, dans les années 90, ont permis de donner à la droite un espace médiatique et un allant dont aujourd'hui nous sommes les héritiers et qui font que de Geoffroy Lejeune à Charlotte Dornelas en passant par Eugénie Bastier, en passant par la modernisation entre guillemets de Radio Courtoisie, sa digitalisation et donc sans doute une influence plus grande, en passant par les bonnes ventes des livres de certaines maisons d'édition et aussi le nouvel actionnariat prestigieux de ces mêmes maisons d'édition, je pense que la droite connaît un allant général qui lui permet d'espérer des lendemains qui chantent. Mais cet allant, il ne se décline pour le moment que sur le plan métapolitique, pour prendre une expression qui était à la mode il y a quelques années. Et c'est là tout le danger. C'est parce que j'explique dans mon livre un phénomène de mirage qui s'appelle les Fata Morgana, qui sont des mirages dits supérieurs. Un mirage classique, c'est une superposition de couches d'air froid sur une couche d'air chaud. Puisque, évidemment, l'air froid est en haut dans l'atmosphère. Mais dans certaines parties du monde, que ce soit dans la baie des Chaleurs au Canada, ou au Glénan, ou dans le détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile, vous avez parfois, quand les conditions atmosphériques sont réunies, un phénomène inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est une couche d'air chaud qui vient superposer sur une couche d'air froide au sud de la mer. Et donc, ça donne un piège dans lequel est pris le canal optique et qui façonne des mirages incroyables. D'ailleurs, vos auditeurs peuvent aller vérifier sur Internet, il faut taper Fata Morgana, et là, ils verront des images de cargos qui volent dans le ciel, de maisons à l'envers, et des phénomènes assez spectaculaires. Et je pense que la droite en est exactement là. C'est-à-dire que la couche d'air chaud, c'est tout ce que je viens de décrire, c'est la métapolitique flamboyante et notre droite incandescente que nous voyons peu à peu sortir de terre et s'affirmer, se mettre en scène, raconter ses paysages et ses personnages, comme j'ai tenté de le faire modestement dans le livre. Et la couche d'air froid, bah, c'est la réalité du pays et de ses politiques publiques. Il ne se passe absolument rien de droite dans ce pays, sur le plan de la fiscalité des entreprises, sur le plan de la fiscalité des particuliers, sur le plan des programmes de l'éducation nationale, sur la composition des directions, des grandes institutions culturelles publiques. Il ne se passe rien dans les prix littéraires ou quasiment rien dans les prix littéraires pour récompenser la droite. Il ne se passe rien sur la question de la maîtrise des flux migratoires. Il ne se passe rien sur la question de la lutte contre l'insécurité. Il ne se passe rien sur le fonctionnement de la justice. Il ne se passe rien sur la composition du Conseil constitutionnel. Dans ce pays, la gauche tient la barre fermement et même sur le plan culturel, comme l'avait dit récemment Alain Finkielkraut dans un interview à Valeurs Actuelles, attention, le camp du bien continue à se porter à merveille. Or, il y a deux personnes, deux camps, entre guillemets, qui s'affrontent pour nier ça. Il y a les imprudents de notre famille qui, eux, crient victoire trop tôt et plastronnent par orgueil et par goût du triomphe précoce et précipité. Et il y a aussi nos adversaires qui, eux, aiment à dire et à raconter partout que la droite est incroyablement puissante dans ce pays aujourd'hui et que, vraiment, parce qu'il y a deux journalistes de droite qui officient sur une chaîne de télévision normalement réservée à la gauche et que tout d'un coup, il y a une extrême droitisation du pays ou une droitisation de ce pays. Bon, il suffit de voir les réactions qu'ont suscité la venue de Eugénie Bastier dans une émission politique. Eugénie Bastier, une journaliste du Figaro, qui va participer l'année prochaine à une émission de politique de grande ampleur sur France 2. Ça devrait être totalement normal. Je veux dire, cette journaliste est brillante, elle a pignon sur rue au Figaro, elle a écrit des livres, personne ne remet en cause sa puissance intellectuelle, mais on a quand même eu le droit à un communiqué de la Société des journalistes de France Télévisions expliquant que, d'ailleurs dans un portrait dans lequel je ne reconnaissais absolument pas ma consoeur, qu'elle était militante ou que sais-je, et qu'elle avait des positions qui n'étaient pas défendables, et j'en passe et des pires. Et donc, la réalité, c'est que il y a encore des stimuli et des réflexes pavloviens de la part de la gauche culturelle pour essayer d'empêcher la droite, non pas de l'emporter, mais ne serait-ce que d'avoir voix au chapitre.
Duc Duhal-Denis, merci, parce que je pense que... Et je me posais la question en mon fort intérieur de savoir ce que vous pensiez réellement, parce que vous nous dites la vérité vraie. Et j'avoue que je suis absolument, comme vous, interloqué quand j'entends à gauche comme à droite, ou plutôt à droite comme à gauche, certains qui diraient qu'on aurait soi-disant gagné une quelconque bataille culturelle. Mais... wake up and smell the coffee, comme diraient nos amis anglo-saxons, et je vais mettre un euro dans le cochon.
Ah oui,
réveillons-nous.
Moi, on m'avait toujours dit qu'à Radio Courtoisie, il ne fallait pas parler anglais, mais alors là, vous...
Alors, on a le
c'est
droit.
Pas un euro, là, c'est 10. Hein.
Alors, on a le droit, à condition de le traduire, il faut se réveiller et boire une tasse de café. Non, mais je voulais être un peu provocant pour attirer l'attention donc, de nos auditeurs, et je leur rappelle qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie, au Libre Journal du Xérapion, et j'ai le grand plaisir de recevoir Duc Duhal-Denis autour de son dernier ouvrage, La cendre et le feu, enquête intime au cœur de la droite française aux éditions Robert Laffont. Et en effet, encore une fois, merci parce que je place très souvent mon émission sous, je dirais, les auspices de la rationalité. Il faut regarder les choses en face. Non seulement la gauche a toujours un monopole en termes de temps de parole, elle a toujours un magistère moral, et en plus, le système, je n'aime pas ce terme, mais je suis de plus en plus obligé de l'utiliser face à la réalité, est de plus en plus violent vis-à-vis de paroles dissidentes, puisque aujourd'hui, on peut quasiment dire, à l'heure à laquelle nous nous parlons, que la jurisprudence interdit une contestation de l'immigration arrivant temps jusqu'à réfléchir ou se demander si celle-ci ne doit pas totalement cesser, voire que les flux doivent s'inverser. C'est ce que dit aujourd'hui la jurisprudence, et on le voit encore il y a cette semaine, des conférences avec des intellectuels qui évoquent ces sujets qui se voient interdits. Donc, je pense qu'il faut être très, très attentif à, je dirais, des signaux faibles qui montrent que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, le champ juridique de la liberté d'expression se restreint. Heureusement, notre État, grandement impuissant sur ses missions régaliennes, essaye de lutter contre ça, mais il a du mal à lutter contre Internet, pour résumer les choses. Mais voilà, encore une fois, et pour la troisième fois, merci de le rappeler, parce qu'on ne va pas gagner si déjà on n'est pas lucide vis-à-vis de nous-mêmes. Et alors justement, en termes de lucidité, peut-être, et c'est la partie aussi la plus humaine de votre ouvrage, ce que j'ai beaucoup aimé dans votre démarche, c'est qu'on sent un amour de deux choses, de votre métier de journaliste. Alors moi aussi, j'aime mon métier de journaliste. Je suis bénévole, mais on peut aimer quelque chose qu'on fait bénévolement depuis plus de 30 ans, au même micro. Bon, voilà. Et vous aimez aussi ces hommes politiques. Vous les aimez, j'allais dire, charnellement. Et vous essayez, non pas tant de rentrer dans leur intimité, mais que d'essayer de...
Quoique.
Mais vous n'essayez pas tant, mais surtout d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils ont apporté à la France et aux Français. Et peut-être justement, pour le plaisir de nos auditeurs, on peut découvrir un petit peu ce que vous inspirent certaines figures. Peut-être peut-on commencer... Alors, on ne va pas tous les faire, parce que nous n'avons qu'une heure et demie, c'est extrêmement court, bien évidemment. C'est...
Oui, vraiment, vous auriez pu m'inviter 4 heures quand même. Non, je blague, c'est évidemment déjà très très généreux.
C'est la marque de fabrique de Radio Courtoisie. À Radio Courtoisie, l'intelligence vient aussi du temps que l'on laisse à la fois à l'invité et au patron d'émission, toutes choses égales par ailleurs.
C'est vrai que c'est plus dur d'être brillant en 2 minutes 30. Mais c'est vrai que c'est une pathologie, entre guillemets, beaucoup... partagé par certains journalistes politiques, qui est d'écrire toute la journée, toute l'année sur les coulisses du pouvoir, les hommes politiques. Et en fait, on sent dans leurs articles, transpire le fait qu'ils n'aiment pas trop leur matière, quoi. Ils n'aiment pas trop leur personnage, ils n'aiment pas trop leur sujet. Moi, évidemment, j'adore les hommes politiques et je rêvais de côtoyer des hommes politiques dès mon plus jeune âge. Quand on regardait des émissions politiques à la maison, ce qui était beaucoup le cas avec mon père, et quand je piquais dans sa sacoche le Figaro, le Monde du Jour, pour lire tout ça. Et c'est vrai que, voilà, par exemple, je prends l'exemple d'Edouard Philippe, à dessein, puisque ce n'est pas celui qui est le plus calqué sur la ligne de valeur actuelle. Bien, Edouard Philippe, honnêtement, c'est pas inintéressant, si vous voulez, de parler d'armée avec lui. C'est un fan Amélie, donc il vous raconte à la fois ses expériences sans caméra de télévision à Canjouers, qui est un des plus gros centres d'entraînement en Europe d'artillerie, quand il vous parle de son service militaire, quand il vous fait l'honneur de venir à la messe d'enterrement de votre grand-père maternel, qui était un héros de Dien Bien Phu, le colonel Jacques Allaire, dont les mémoires ont été publiées à titre posthume chez Perrin cette année, et que Edouard Philippe avait emmené, quand il était Premier ministre, à Matignon, au Vietnam, avec un autre ancien combattant. Et donc c'est pour ça qu'il était venu à la messe d'enterrement du colonel Allaire aux Invalides, et une messe d'enterrement tradie, avec beaucoup d'enfants de cœur, avec la prière du para, avec une homélie dans laquelle, célébrée par mon frère Alban, qui est chanoine de l'Institut du Christ-Roi souverain prêtre, n'avait pas... mis ses convictions et les combats de mon grand-père sous le manteau. Effectivement, côtoyer des gens comme ça, débriefer ce genre de messe, parler avec eux de leur expérience à Matignon quand il faut piloter l'État et appuyer sur les différents boutons qui composent le clavier de l'action publique en France. J'avoue que je suis assez attaché aussi à la figure de Benoît Ribadeau-Dumas, qui était le directeur de cabinet d'Edouard Philippe à Matignon.
Alors, excusez-moi, on va y revenir, mais peut-on continuer quand même sur Edouard Philippe, oui, qui, quand même, aujourd'hui fait figure d'un des prétendants à l'élection présidentielle. En tout cas, il ne cache pas son ambition. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur le Edouard Philippe en tant qu'homme, en tant que politique? Quelles sont ses idées? Quelle est sa, quel est son moi profond, si ouais. je puis me permettre, puisque justement, c'est de ça dont vous voulez nous entretenir.
En fait, il a deux moi profonds, parce qu'il a côté famille paternelle, une famille plutôt laïcarde, aux origines à la base modeste, et côté maternelle, une famille lilloise, havraise, hein, côté paternel, et côté maternel, une famille lilloise catholique, d'une droite beaucoup plus classique. Et il y a cette tension chez lui entre les deux. Il est souvent rattrapé par sa volonté de raccrocher les wagons du consensus et du compromis. Il y a évidemment cet atavisme juppéiste, et en même temps, il a cette phrase dans le livre, il m'avait dit lors d'un déjeuner, vous savez, aujourd'hui, sauf à m'humilier, plus personne ne me qualifie de juppéiste, parce qu'il sait que l'identité heureuse, qui était le concept d'Alain Juppé pendant la campagne présidentielle de 2017, est un concept un peu fumeux et qui a coûté beaucoup à Alain Juppé, qui peut parler d'identité heureuse dans une société aussi fracturée que la nôtre, aussi archipélisée et aussi conflictuelle. Il y a les péchés, je dirais pas originels, mais qui se succèdent, entre guillemets, chez Édouard Philippe, et notamment cet appel à voter communiste lors de l'élection législative de 2024, pendant la dissolution. Alors, c'était un front républicain à géométrie locale, mais qui est impardonnable pour nombre d'électeurs de droite. Il y a certaines postures, entre guillemets, consensuelles, dans lesquelles il s'enferme. Et en même temps, il y a sa capacité à vibrer pendant une messe célébrée selon le rite tridentin. Il y a sa connaissance des chants parachutistes. Il y a ses lectures aussi, parce que c'est un grand lecteur. Et il y a cette recherche. Mais de toute façon, moi, c'est quelque chose qui me frappe honnêtement chez tout le monde en ce moment, y compris des macronistes, hein, qui ne sont pas forcément dans le livre, mais que je peux côtoyer. Tout le monde est en train de rechercher le talisman de la droite, parce que tout le monde sent qu'il y a une urgence française. Tout le monde sent que la France est passée en mode survie. Tout le monde sent que l'affaissement du catholicisme dans ce pays, qu'on soit croyant ou pas, est quelque chose qui bouleverse la matrice française. Tout le monde sent qu'il y a un sujet avec les frontières. Tout le monde sent qu'il y a un sujet avec l'héritage culturel et notre mémoire historique. Tout le monde sent qu'il y a une espèce de comment dire, de colère et d'apnée française qui est à un point de bascule. Et c'est pour ça que la droite est absolument majoritaire dans les cerveaux de ce pays. Et c'est pour ça que les hommes politiques, de quelque camp qu'ils fussent, cherchent une manière de parler à l'intériorité des citoyens, à leurs aspirations profondes. Il y a une discussion que François Bayrou me raconte dans ce livre qu'il avait eu avec Chirac, où Chirac, dans un grand numéro de charme et de leçons politiques, un peu à la légère, comme il pouvait en donner, lui donne, il le convoque un jour à l'Élysée quand Jacques Chirac était président, et il dit à François Bayrou, tu sais, on est en pleine cohabitation avec Lionel Jospin. Donc post-1997, dissolution de 1997, entre 97 et 2002. Et Chirac lui dit, tu sais, voilà, je ne vais pas me lancer dans une imitation. Hein. Écoute, non, voilà, je ne vais pas aller plus loin.
Vous êtes libre.
Il lui dit, tu vois, François, je crois que vraiment, les institutions sont bien faites. Un Premier ministre, ça sert à gouverner. Et puis, un président de la République, ça sert à représenter la France à l'étranger. Et là, François Bayrou lui dit, tu vois, moi, je pense que tu n'as rien compris. La France, elle est une fois de plus en apnée. Elle ne respire plus. C'est un pays qui a une crise profonde de son identité. Je ne dis pas, bien sûr, je précise à vos éditeurs tout de suite cette parenthèse, que je ne dis pas du tout que François Bayrou, les quelques fois où il a eu les manettes, a su répondre à cette crise-là.
C'est un autre sujet.
On est bien d'accord.
On est avec des gens... Vous êtes à Radio Courtoisie, Tuc Dual-Denis, tout de même.
Non, mais parce que c'est vrai que c'est tellement la distorsion entre la capacité de diagnostic de certains responsables politiques et l'impossibilité qu'ils ont à les mettre en pratique une fois au
pouvoir.
Et François Bayrou lui dit, voilà, moi je pense que le rôle d'un président, c'est d'aller chercher l'âme française, de savoir redéfinir un pays qui ne sait plus comment il s'appelle, le renommer, lui redonner un horizon, lui redonner des soubassements, ou le re-révéler ses soubassements. Et en fait, je crois, voilà, c'est ça qui traverse un peu tous les personnages de ce livre. Et aussi, puisque nous sommes dans une situation d'urgence, une forme de radicalité. Tout le monde est conscient, je crois, et en tout cas, c'est moi, je crois, ce qui ressort des personnages publics comme privés de ce livre, que on n'y parviendra pas sans un renversement de table, sans un changement de paradigme profond, sans une révolution copernicienne.
Tuc Dual-Denis, vous avez dit beaucoup de choses. On va tout reprendre dans l'ordre, parce que c'est important. à moins que nous faisions ce petit bobino important pour la vie de notre chère radio.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie au Libre Journal du Xérapion. Je suis très heureux de recevoir Tuc Duhal-Denis autour de son dernier ouvrage, La cendre et le feu, enquête intime au cœur de la droite française, aux éditions Robert Laffont. Tuc Duhal-Denis, revenons à Édouard Philippe. Vous avez en quelque sorte projeté sur la suite de notre entretien un petit peu tous les enjeux auxquels la France et les Français font et devront faire face. Mais revenons donc justement à Édouard Philippe. Qu'est-ce qu'Édouard Philippe est et qu'est-ce qu'il a compris de ce moment, de cette tragédie, de cette difficulté, de ce nœud gordien dans lequel aujourd'hui sont plongés la France et les Français?
Je dis dans le livre que c'est très compliqué de savoir si à la fin de la fin... Édouard Philippe a compris, ou en tout cas se calque sur notre manière de voir les urgences françaises. Je me permets juste de décrire son habitus et qui, je pense, est un peu surprenant par rapport à ce que peuvent projeter des gens chez lui. Après, je crois que, une fois de plus, c'est quand même quelqu'un qui donne souvent des gages. Au conformisme, d'une certaine manière à la bien-pensance, pour jamais basculer, comme diraient des références cinématographiques prestigieuses, du côté obscur de la force. Hein, et que je veux pas, d'ailleurs, y compris pour pas l'instrumentaliser lui, hein, je veux pas le droitiser plus qu'il n'est.
Plus qu'il ne se souhaiterait.
Plus qu'il ne souhaiterait, ça, à la limite, c'est un peu moins mon sujet. Mon sujet, c'est de respecter la vérité et l'authenticité des choses, et que donc ça ne servira à rien de forcer une droitisation d'Édouard Philippe. Mais je pense voilà, qu'il avait quand même sa place dans ce récit, même si, effectivement... Il y a peut-être des choses qui correspondent un peu plus de manière chimiquement pure à ce que peuvent ressentir d'une manière générale les gens de droite à travers les figures de Marine Le Pen, de François Fillon ou de Philippe de Villiers.
Tuc Duhal-Denis, nous allons revenir évidemment un peu plus tard dans l'émission sur votre analyse politique, puisqu'on a la chance quand même d'avoir le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles avec nous, donc vous avez forcément réfléchi à tout cela. Continuons, si vous le voulez bien, notre galerie de portraits, parce que je pense que c'est pas le seul, mais un des aspects sympathiques et intéressants de votre livre. Je vous l'avoue, je l'ai lu en deux nuits au détriment de ma vie professionnelle.
Ah, je suis désolé.
Non, au contraire, ça voulait dire que je ne me suis pas ennuyé et personne ne peut s'ennuyer à sa lecture. Et de nos jours, c'est déjà une grande qualité. Justement, vous parlez de Marine Le Pen. Comment définiriez-vous justement cette femme à qui vous refusez d'une certaine façon, vous déniez le fait qu'elle puisse être de droite?
Ah non, c'est elle qui dit, justement, moi je la ramène.
J'ai bien lu quand même à la fin où vous dites que vous n'avez jamais voté pour elle parce qu'elle ne s'est pas définie comme de droite. Mais vous aviez le droit de la définir de droite.
Parmi les raisons effectivement qui font que je n'ai jamais voté Front National ou Rassemblement National de ma vie, il y a globalement le fait que je n'ai jamais été assez convaincu par leurs propositions politiques. Et parmi les raisons qui font que je n'ai pas été assez convaincu par leurs propositions politiques, c'est sûr que cette prévention perpétuelle à se définir de droite a pu jouer. Mais plus fondamentalement, pourquoi je ne vote pas pour eux? C'est parce que je ne suis pas en accord avec leur programme économique et que je trouve, ça c'est peut-être la raison principale, que c'est un parti qui n'est pas suffisamment structuré. J'arrive pas, si vous voulez, au-delà de la personnalité de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, dont je vois très bien le niveau qu'ils ont et auquel ils prétendent, et la correspondance entre ceux qu'ils sont et ceux qu'ils aimeraient exercer comme pouvoir, c'est vrai que derrière eux, j'ai un peu du mal à voir quel gouvernement pourrait être composé et à quoi pourrait ressembler un RN au pouvoir. Maintenant, je vous le dis très clairement aussi, Les Républicains me donnent absolument pas envie en ce moment. Enfin, je suis un peu orphelin, en gros, politiquement.
Je crois que vous n'êtes pas le seul, cher ami.
Et j'ai dit tout à l'heure les limites que je voyais dans le philippisme. Marine Le Pen, c'est avant tout pour moi une femme blessée. Et je crois que c'est ça qui a été le constitutif de son existence. C'est quand même un drame toutes les 2 minutes 30 dans sa vie, de l'attentat de la Villa Poirier en 1988, si je ne m'abuse. Pardon, excusez-moi, elle avait 8 ans, elle est née en 68, donc c'était en 1976. L'attentat de la Villa Poirier, évidemment les ruptures avec son père, l'enfance houleuse qu'elle a pu vivre, cette diabolisation, l'épisode avec Bruno Maigret qu'elle a vécu de plein fouet, le départ de sa mère du domicile familial. Elle est couturée de cicatrices et c'est ça qui me fait que j'ai pour elle une énorme considération et un énorme respect, quand bien même on a eu des relations toujours un peu houleuses, dont le pic a été le moment où j'avais révélé l'identité du père biologique de Marion Maréchal, à savoir Roger Hawk. Et bon, sans vraiment l'accord de la famille, c'est moins qu'on puisse dire, à l'époque où je travaillais à l'Express. Marine Le Pen m'en avait beaucoup voulu. Je raconte dans le livre une scène un jour au congrès de Lyon, dans les années 2000, et je lui dis, bon, est-ce qu'on pourra discuter un de ces quatre? Et elle me dit, bah, ça dépend, pour parler de politique ou pour parler de ce qui se passe au fond des chiottes.
Ambiance, comme on dit chez les jeunes.
Fin de citation. C'est de toute façon, voilà, quelqu'un de très impressionnante. Un de ses amis m'avait dit un jour cette phrase que je trouve absolument incroyable. Est très vrai. Vous qui d'ailleurs êtes assez voisins géographiquement du siège du Rassemblement National, quand Jordan Bardella ou Marine Le Pen vont du siège du Rassemblement National Porte de Saint-Cloud jusqu'en dans un restaurant qui au bord de la place de la Porte de Saint-Cloud, il y a deux phénomènes très différents qui se produisent. Jordan Bardella, tout le monde s'agglutine vers lui parce qu'il y a le côté star vu à la télé, très populaire. Et Marine Le Pen, tout le monde s'écarte. Elle colle les gens contre les murs, pas parce qu'elle fait peur aux gens, mais parce qu'elle les impressionne. Parce que c'est l'histoire contemporaine qui marche sur un trottoir. C'est chargé de force symbolique. C'est une femme honnêtement incroyable. Et même moi qui l'ai interviewée plein de fois, qui quand même l'ai côtoyée maintes fois, quand je suis en tête-à-tête avec elle au restaurant, honnêtement, je suis toujours assez impressionné. Alors là où je suis beaucoup moins impressionné par les personnages pourtant éminents qu'on a déjà cités. Et puis bon, il y a chez elle, il y a cette attitude sur la défensive qui est intrinsèque à sa personnalité depuis la naissance et qui explique beaucoup de ses positionnements. Elle n'est jamais là où on l'attend. Je trouve qu'elle fait preuve aussi d'une très grande intuition et une très grande contre-intuition d'ailleurs. C'est-à-dire que Marine Le Pen, quand un phénomène politique se passe dans l'actualité, arrive à 14h, vous l'interrogez de 14h à 14h10, tout le monde va avoir la même interprétation. Vous appelez Marine Le Pen à 14h11, elle vous dit exactement l'inverse, ou en tout cas quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que tous les autres vous disent, parce qu'elle a un prisme particulier, parce qu'elle a du vécu, parce qu'elle a cette espèce d'indépendant d'esprit, d'autorité, de liberté, parce qu'au fond du fond, je pense que la politique n'est pas vitale chez elle. C'est pas Jean-François Copé qui rêvait, quand il était collégien ou écolier, de devenir président de la République par ambition pure. Je pense que vraiment Marine Le Pen aurait était très heureuse d'avoir une autre vie que celle-là. Il y a une espèce de contingence de la politique dans son existence qui fait à la fois sa faiblesse peut-être, parce que on a l'impression que parfois elle a des rapports troublés avec tout ça et qu'elle est un peu loin de ce que nécessite une carrière politique au sens fonctionnel du terme, et en même temps ce qui lui donne une énorme force, parce que elle est au-dessus des mauvaises conséquences de l'ambition et du carriérisme, justement.
Et Tuc Duhal-Denis, vous avez parlé donc de Marine Le Pen, qu'elle était couturée de cicatrices, etc. On a écouté ce que vous avez dit, mais est-ce que ce n'est justement pas ça que l'on appelle plus ou moins un homme d'État, c'est-à-dire bien quelqu'un sûr qui s'élève un petit peu au-dessus de l'homme politique? Et d'ailleurs, je pense que c'est ce côté à la fois populaire et en même temps qui a souffert, qui explique son aura dans les milieux, dans l'ensemble des milieux français, notamment les milieux populaires. Et je suis, et j'aimerais avoir votre première analyse, et ça fera peut-être une transition sur nos autres sujets, qui est de savoir un petit peu prendre la température de notre cher et vieux pays. J'ai énormément de mal à imaginer que Jordan Bardella, quelles que soient les immenses qualités et l'immense popularité qu'il a, peut-être même supérieure à sa mentor, j'ai vraiment du mal à imaginer qu'une élection présidentielle puisse se dérouler de la même façon et qu'après avoir reprocher que l'on ait donné le pouvoir à la ville dont le prince est un enfant avec Macron, eh bien, on prenne quelqu'un qui lui-même a 10 ans de moins. J'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Quelle est votre analyse, Tuc Dual-Denis ?
Alors, sur Marine Le Pen en tant que telle, déjà, effectivement, ses cicatrices lui donnent une singularité, une force, et puis c'est cette manière tripale d'avoir vécu la politique dans sa chair depuis le début fait que moi il y a une image qui me marque toujours, c'est vous avez des inondations dans le Pas-de-Calais, vous avez un sujet du JT de 13h de TF1 et là tout d'un coup il y a Marine Le Pen avec une paire de bottes et une vieille dame dont la maison a été inondée et en fait la vieille dame prend dans ses bras Marine Le Pen et honnêtement, je ne vois pas d'homme ou de femme politique avec qui cette scène serait aussi authentique que quand ça arrive à Marine Le Pen. Il y a un côté mère la nation, je trouve, sans que d'ailleurs ça soit de la fausse complicité chez elle. Hein, mais il y a un côté, les gens, et en tout cas ceux qui sont électeurs de Marine Le Pen ou sympathisants de Marine Le Pen, se projettent en elle comme vraiment une espèce d'instance protectrice au-dessus d'eux. Et alors, quant à Jordan Bardella, je partage assez volontiers votre analyse. Si vous voulez, moi, ma thèse, elle est assez simple. Je pense que, je pense que Marine Le Pen est une moins bonne candidate de second tour que Jordan Bardella et que Jordan Bardella est un moins bon candidat de premier tour que Marine Le Pen. Je m'explique. Je pense que le jour où Marine Le Pen est finalement candidate et que les juges en décident ainsi, elle commencera la campagne à 30% dans les sondages et elle terminera le soir du premier tour à 30% parce que elle arrivera avec son inertie, avec sa force, avec son expérience qui feront que rien ne pourra la déstabiliser. Je vois pas du tout à quel moment, quelle polémique, quel adversaire politique lors d'un débat pourrait tout d'un coup effriter l'équation politique.
Oui, elle a déjà tout vécu.
De Marine Le Pen a tout vécu. On pourrait prendre plus de sauterelles que ça ne changerait rien. Je pense en revanche que Jordan Bardella est plus vulnérable et je suis d'accord avec vous, nonobstant ses immenses qualités, sa précocité, une forme enfin c'est quand même une forme de surdoué de la politique, mais il a moins de cicatrices et le jour où la machine d'une campagne présidentielle va se mettre en route avec la puissance
violent,
du scan que ça implique, avec la violence, la répétitivité, le rythme, la cadence, l'intensité, entre guillemets, des attaques qu'il ne manquera pas de subir, peuvent commencer à effriter la stature qui est la sienne. Et dans la mesure où il y a moins de rétroactivité, entre guillemets, de son activité politique, de son empreinte romanesque et électorale, je pense que voilà, si lui il peut commencer la campagne à 30%, il la commencera d'ailleurs à 30%, mais que petit à petit il peut se faire grignoter par les attaques. Et en revanche, c'est un peu le paradoxe de la situation, je pense que c'est un meilleur candidat de second tour qu'elle, puisque s'il arrive au second tour, Jordan Bardella, ça veut dire qu'il aura été au niveau d'une campagne présidentielle, ça veut dire qu'il aura réussi à maintenir son socle électoral et ne pas se faire, attaquer son capital de voix. Et pour un second tour, je l'imagine un peu plus rassembleur. Il peut déniaiser, entre guillemets, un électorat bourgeois qui serait réticent à mettre un bulletin Le Pen dans un isoloir au moment M. C'est vrai que j'ai un peu du mal, encore aujourd'hui, dans cette France-là, imaginer 50,01% des gens voter Marine Le Pen au second tour, alors que Jordan Bardella me semble plus facile à projeter dans cette situation.
Alors nous arrivons à ce moment-là où je voulais en effet vous sonder, sans jeu de mots, sur l'élection, notamment l'élection présidentielle, les forces en présence. Alors, on pourra revenir sur d'autres figures justement de la droite qu'on n'a pas encore évoquées. Mais puisqu'on est à ce moment-là, je suis un observateur assez fasciné. Bon, d'abord, je crains malheureusement qu'il y a très peu de chances, à l'heure où nous parlons, que les juges se déjugent, si vous me permettez l'expression, et qu'on voit mal quelque chose qui soit autrement qu'une candidature de Jordan Bardella. Et je n'arrive pas à comprendre comment les choses vont se passer. Parce que, au fond de moi-même, ce que je dis est une analyse politique, ce n'est pas, là aussi je fais comme vous, je prends des précautions oratoires, ce que je souhaite ou ce que... Nous avons un bloc national qui pèse peu ou prou 30 ou 35% avec ses alliés, peut-être même légèrement plus.
Plus, oui.
Peut-être même légèrement plus, peut-être même 40%. Ça, c'est un fait.
Je vous coupe juste deux secondes. Aux dernières élections européennes, Jordan Bardella plus François-Xavier Bellamy plus Marion Maréchal, on peut quand même dire que François-Xavier Bellamy, c'est pas la gauche des LR. Hein. C'était 53% des Français, des voix.
Alors, Tuc Dual-Denis, très bien. Rebondissons là-dessus. 53%, sachant que c'était en agglomérant des gens qui n'avaient jamais fait allégeance. Excusez-moi, mais pour faire 50,1% à une élection présidentielle, c'est assez peu. Et donc, j'aimerais que vous nous présentiez le panorama de l'autre côté de la vie politique, qui donc a 47% et avec des réflexes d'union et de détestation du camp d'en face suffisamment fort pour pouvoir très facilement gommer ces 3%.
Écoutez, moi j'ai écrit une phrase dans mon livre où j'explique que quant à notre incapacité effectivement à se rassembler, je dis sur le palier de nos convictions communes, nombreux sont les voisins qui ne se parlent pas. Et c'est vrai que c'est Eugénie Labastier, d'ailleurs, la journaliste du Figaro dont je parlais tout à l'heure, avait eu la préscience, entre guillemets, de l'écrire dans un de ses articles, que ce qui distingue la gauche de la droite, c'est quand même la capacité à la désunion à droite. Et puis, pour reprendre ce que disait Vincent Bolloré, que je citais tout à l'heure, notre incapacité à chasser en meute. Souvenez-vous comment le nouveau Front populaire est né en une fraction de seconde. Et voyez comment, effectivement, des gens qui, quand même, voilà, je parle de Marion Maréchal, François-Xavier Bellamy et Jordan Bardella exprès, parce qu'ils étaient tous trois têtes de liste aux dernières élections européennes et qu'on a là des gens peu ou prou d'une même génération et peu ou prou même camp politique.
Et avec les mêmes idées. Une feuille de papier à cigarette.
Honnêtement,
il n'y a que des journalistes, pardonnez-moi, Tuc Dual-Denis, pour expliquer qu'il y en a un qui va brûler en enfer, tandis que les autres auront peut-être droit au purgatoire.
Alors, le problème, ce n'est pas tant les journalistes, je vous dirais, c'est plutôt eux-mêmes. Hein. C'est-à-dire, vous voyez comment la campagne avait été assez brutale. Hein. François-Xavier Bellamy avait été assez choqué de la manière dont Marion Maréchal semblait l'attaquer. Jordan Bardella, déçu de la manière dont Reconquête et en général et Marion Maréchal en particulier avait eu la dent dure à l'égard du Rassemblement National. Il semblerait que cette maladie de la désunion soit vraiment consubstantielle à notre camp. Moi, je pense que on peut pas lutter contre la nature des gens, donc je crois d'ailleurs, quel que soit le domaine, hein, la politique de l'offre, j'y crois en économie, j'y crois aussi en politique. Je pense que le rassemblement, il adviendra le jour où quelqu'un fera autorité. Ça a pu être Nicolas Sarkozy, quoi qu'on pense, de la droite qu'il représente. Mais en tout cas, en termes de stratégie électorale, c'est ce qu'il avait réussi à faire.
Il a plié le match, comme disent.
Il a plié le match, il a réussi à désosser l'électorat de Jean-Marie Le Pen à l'époque, en 2007. Je pense que ça aurait pu, et ça aurait surtout dû, être François Fillon en 2017. Et aujourd'hui, je ne vois pas, effectivement... qui va vraiment réussir à faire autant autorité, même si, évidemment, le Rassemblement National est très haut. Mais le Rassemblement National a quand même aussi une tentation hégémonique. Je crois que je l'ai dit dans le livre, mais en tout cas, c'est une de mes théories, modestes théories. C'est un parti qui est passé du jour au lendemain du complexe d'infériorité au complexe de supériorité.
Très juste.
Et effectivement, le complexe d'infériorité, il se comprenait par l'extraordinaire hostilité rencontré par les gens qui ont milité au Front National et au Rassemblement National, les casseroles, les manifestations de cégétistes et autres militants de gauche qui attendaient la famille Le Pen partout où ils se déplaçaient, et l'opprobre subi par les élus du Front National historiquement. Et ce complexe de supériorité, j'ai quand même deux, trois raisons de le voir poindre. Quand Marion Maréchal a fait une forme de mea culpa pour finalement rejoindre la coalition des droites qui était en train de se mettre en place, en tout cas la coalition tout court qui était en train de se mettre en place au moment où Éric Ciotti lui-même a franchi le pas en rejoignant le Rassemblement National au moment de la dissolution de 2024, ça a été très compliqué. Et je relate dans le livre d'ailleurs une discussion que j'ai avec Marine Le Pen à ce moment-là. Je finis par l'avoir au téléphone et je lui dis, écoutez, voilà, je suis personne pour vous dire ça, mais je trouve que c'est un peu dommage pour vous parce que là, Marion semble revenir à la maison du père. Il y avait eu cette scène devant le siège du Rassemblement National où Marion vient discuter avec Jordan Bardella et Marine Le Pen d'un possible ralliement et elle-même qui venait de claquer la porte de chez Reconquête. Il y a une déclaration à l'époque de Marine Le Pen et Jordan Bardella disant qu'ils prenaient acte de cette volonté de rassemblement. Et dès le lendemain, voire quelques heures après, on apprend que les discussions se passent mal, que finalement ça va être plus compliqué que prévu, etc. Et donc je dis ça à Marine Le Pen au téléphone et elle me dit, fidèle à son franc-parler, elle me dit, écoutez, Tugdual, quand vous dirigez un parti politique, bah, vous aurez qu'à essayer d'être magnanime tout seul. Puis après, la discussion quand même se poursuit et elle me dit, vous voyez, c'est compliqué aussi parce que Marion arrive, elle est un peu maladroite, elle est un peu gourmande. Et puis moi, je suis obligé de faire attention parce qu'en interne, ils ont été un peu traumatisés de son départ chez Reconquête. Donc, c'est compliqué. Et ça a été pour moi, voilà, une des scènes parmi mille autres, hein, mais de la manière dont la droite est incapable de faire la paix. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je dis dès mon introduction que moi, ce livre, il est fait pour faire la paix et que je pense que c'est le jour où on sera pacifié, qu'on donnera envie. C'est pas le jour où on aura nos épées en permanence. Il y a des combats à mener et je crois qu'à l'heure actuelle, on les mène et je mets pas du tout mes convictions dans ma poche. Mais pour autant, quand il s'agit de nous-mêmes, s'il vous plaît... essayons de décrire nos habitudes communes plutôt que de chercher en permanence ce qui nous divise.
Alors justement, permettez-moi de revenir sur ce que nous disions en cours d'émission sur l'ostracisme. Je crois que la désunion de la droite vient de l'opprobre moral, de l'interdit, des oukas, les Allemands ont un mot pour dire qu'on Beruf Verbot, c'est-à-dire l'interdiction de travail. Vous voyez, on colle.
J'espère que là aussi, il sera un euro dans la tirelire quand même, parce que c'est trop facile de parler allemand pour éviter de parler anglais.
Nous avons du respect pour toutes les grandes langues représentant les grandes civilisations, même si, évidemment, nous sommes la radio du pays réel et de la francophonie.
J'espère que vous incluez le breton dedans, parce que sinon je serais très vexé. Très vexé.
En tant que bourguignon, je n'ai pas d'avis sur la question. Et évitons de parler de ce qui nous divise, justement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est cette fracture... comment dire, de l'état d'esprit ambiant qui pose des interdits, et on l'a bien vu sur les alliances, etc., qui est encore aujourd'hui l'ombre projetée. Alors c'est une ombre moins forte, puisque bien évidemment, quand les Républicains feront non plus 4,5% comme avec Valérie Pécresse, mais 2,5%, bon, bah, ils se rallieront peut-être à ceux qui sont un peu plus puissants, mais ça reste encore très fort. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'aimerais qu'on revienne quand même, parce que je vous avoue, mon immense perplexité, nous avons dit qu'il... Je voudrais que vous nous représentiez les différents blocs en présence, les différentes forces politiques en présence à la veille de cette élection présidentielle dont chacun s'accorde à dire qu'elle sera quand même probablement assez mémorable de quelque façon que l'on imagine ce terme. Donc il y a 40 à 45% sur un bloc de droite nationale et ensuite présentez-nous le paysage politique.
Alors déjà, c'est d'ailleurs une de mes divergences avec Marine Le Pen qui a successivement essayé d'installer le clivage entre populistes et...
mondialistes, oui.
Et ceux qui se revendiquent raisonnables, après entre mondialistes et patriotes, après je ne sais quel autre genre de clivage. Moi, je crois au clivage droite-gauche, qui je pense est tout à fait structurant, même si aujourd'hui, la différence, c'est qu'il ne se fait plus sur des questions sociales, mais sur les questions de mode de vie. Et quand je dis mode de vie, c'est vraiment, j'englobe très large, j'englobe à la fois des habitudes assez... assez triviaux.
Sur l'identité au sens large.
Exactement.
Bon, bref,
exactement.
On a compris.
Et que donc, par exemple, le meeting à Saint-Denis, Jean-Luc Mélenchon récemment, ça revendique...
Emblématique et fondateur.
Exactement. Et cette revendication d'une nouvelle France est un clivage est un élément qui vient de manière totalement entre guillemets pertinente s'instaurer dans ce clivage droite-gauche sur les modes de vie. Et on a effectivement le Rassemblement national très haut. On a Bruno Retailleau, quoi qu'on en pense, qui quand même s'inscrit hein, dans ce clivage sur les modes de vie. On peut penser ce qu'on veut des Républicains, mais Bruno Retailleau, on est un menteur si on dit que c'est pas quelqu'un d'enraciné. On est un menteur si on dit que c'est pas quelqu'un d'authentique. On est un menteur si on dit que c'est pas quelqu'un de qui veut un raffermissement des politiques françaises.
Mon propos était simplement de faire le panorama.
Non, mais je dis pas que c'est
des
vous.
Des forces en présence.
Comme on a beaucoup de pharisiens, les pharisiens
et
sont
pas,
partout.
Et pas libérés.
Les pharisiens sont partout, y compris dans nos propres familles, au sens large du terme famille. Bruno Retailleau, certes, a été ministre de Emmanuel Macron, certes, est président d'un parti qui a beaucoup déçu, mais on peut pas lui faire ce procès d'intention de ne pas avoir des convictions et de ne pas s'inscrire dans, à l'intérieur de ce nouveau clivage droite-gauche sur les modes de vie comme quelqu'un qui veut plutôt restaurer les modes de vie, qui a une forme de révérence pour la permanence. Et dans ce cadre-là, évidemment, pour moi, c'est un vrai personnage de droite. Ce qui est intéressant, en fait...
Et
si
qui
vous voulez...
pèse combien ? Parce que bon, j'aimerais vraiment qu'on fasse, pour nos amis auditeurs, ce panorama des forces en présence. Donc, on a dit que le Rassemblement national, c'était 30%. On a dit que, par exemple, Zemmour, c'était 5%. Combien représentent les Républicains ? Combien représente Édouard Philippe ? Combien représente Attal, Glucksmann, Tondelier, Faure, Mélenchon ? Bah, à photographie à la veille de l'élection. C'est-à-dire, je vous demande une sorte de photographie anticipée. Telle qu'elle sortira en 2027 de l'élection présidentielle. Bah, dans la vérité.
Parce qu'effectivement, là, les sondages, vous l'avez cité, les sondages d'aujourd'hui, mais ça, j'apprendrai rien à vos
oui,
auditeurs.
Ça, si enfin, c'est pour les redire.
Si tant est d'ailleurs que je puisse leur apprendre quelque chose. Mais je pense que.
Votre conviction profonde d'analyste politique.
Ma conviction profonde, je vais vous le dire, hein, c'est que. Même si Bruno Retailleau a des énormes problèmes d'incarnation aujourd'hui, je pense que ce qui peut gagner en France, c'est une troisième voie. Elle sera peut-être incarnée par Marine Le Pen ou par Jordan Bardella s'ils font un pas vers leur droite, s'ils font un pas vers la bourgeoisie, s'ils font un pas vers une sorte de professionnalisation, pardon de le dire comme ça, de leur offre politique. Ça peut être incarné par Bruno Retailleau parce qu'en tout cas, moi, voilà, vous savez très bien, je suis filloniste et l'héritier naturel du fillonisme aujourd'hui, c'est Bruno Retailleau. Et moi, je suis persuadé que ce qui peut gagner en France et ce qui est majoritaire, c'est ni une droite uniquement conservatrice, ni une droite uniquement renversement de table façon Rassemblement National, et encore moins une droite de compromis que peut incarner Édouard Philippe, mais c'est que cette troisième voie mélangeant radicalité et sophistication.
Il y a un espace là aujourd'hui.
Ah, je pense que l'espace il est là, il n'attend que ça, c'est-à-dire que les Français qui veulent à la fois renverser la table et en même temps être sûr que ceux qui vont le faire soient capables d'en redresser une autre dans la seconde à la fois bousculer l'État, mais pour mieux le faire renaître et arriver avec des décrets d'application, des ordonnances, avec des ministres compétents, avec des gens qui ont une autorité naturelle sur des directeurs centraux d'administration, avec quelqu'un capable de représenter la France à l'étranger, capable de tenir tête à ceux à qui il faut tenir tête, capable de réinventer la politique étrangère française, et capable de réinventer l'école qui est en train de sombrer. Mais ça demande des compétences, une expertise et ça demande honnêtement une forme de professionnalisme que je ne vois pas objectivement côté RN aujourd'hui et que je ne vois pas côté Bruno Retailleau aujourd'hui en termes de capacité à suffisamment renverser la table d'une part et surtout à l'incarner de l'autre, quoi.
Alors, on va présenter les choses peut-être de façon différente, de façon plus directe, vu que le temps passe. Qui peut légitimement espérer accéder au second tour, sachant que, chacun l'aura compris, il n'y a que deux personnes qui peuvent accéder au second tour. Moi, j'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon va faire une excellente campagne, car il a toujours fait une excellente campagne, qu'il sera prêt à tout pour arriver au second tour, parce qu'il lui a manqué que 400 000 voix la dernière fois, et je pense qu'on l'oublie.
Et donc, y compris à apaiser un peu son discours.
Il saura très bien jouer le politicard de la Troisième République anticléricale mais paternaliste qu'il a su être lorsqu'il était sénateur. Et pour le moment, il fait le plein de la radicalité pour ensuite apaiser dans une sorte d'asymptote descendante jusqu'au moment de l'élection présidentielle pour arriver à ses 20-22%. À gauche, je ne vois pas qui peut le concurrencer. Et de même qu'à droite, je ne vois guère qui peut concurrencer le Rassemblement national. Et donc, je suis face à l'idée que je ne vois pas comment Jean-Luc Mélenchon peut être élu, je ne vois pas comment Jordan Bardella peut être élu. Et en imaginant même que l'un des deux soit élu, je ne vois pas comment ça va bien se passer. Et pour tout vous dire, je pense que comme vous l'avez dit, et j'ai bien entendu vos mots sur l'inquiétude, l'urgence, etc., je suis moi-même extrêmement inquiet pour, comme je le disais, notre cher et vieux pays.
Bah écoutez, franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je partage votre diagnostic. Je pense qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon va faire une très bonne campagne en étant plus méso-voce sur le communautarisme, tout en ayant fait le plein de ce côté-là. Si vous voulez, c'est comme Marine Le Pen vis-à-vis de l'immigration. J'avais une discussion avec elle un jour là-dessus. Elle disait, moi, j'ai plus besoin de parler d'immigration parce que voilà, c'est marqué sur mon front que, évidemment, je serai... très allante sur ces questions-là. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a plus besoin d'envoyer trop de signaux aux banlieues, aux personnes issues de l'immigration, parce qu'il a donné tous les signaux qu'il fallait et que maintenant, il va essayer de refaire revenir les profs de gauche de ce pays dans son électorat, qui aurait pu être un peu bouleversé par... par ces dérapages. Après, pour ce qui nous intéresse peut-être le plus, je raconte dans le livre que Marine Le Pen me disait, elle critiquait un peu Valeurs Actuelles, qu'elle avait fait une sur Bruno Retailleau, qui avait été assez magnanime une fois de plus à l'égard de Michel Barnier quand il était devenu Premier ministre. Et elle disait dans un dialogue que je rapporte, de toute façon, vous, cette droite-là, il suffit... d'un serpent à plumes qui arrive et qui présente mieux que nous et tout de suite vous faites des couves et si c'était lui et puis de toute façon vous avez tellement peur de voter comme votre femme de ménage, cette droite bourgeoise qui voudra jamais voter comme son plombier, comme sa femme de ménage, donc voilà.
Elle a pas totalement faux. Ah,
mais elle a pas totalement tort sur le diagnostic, mais bon, moi je lui ai rétorqué la seule question qui s'est imposée et qui en même temps me laisse dans des océans de perplexité. Je dis d'accord, mais à la fin, pourquoi vous ne convainquez pas ? Enfin,
oui, donnez-nous envie.
Pourquoi ça ne devient pas naturel chez nous justement surmonter ces obstacles-là ? Pourquoi c'est pas une évidence en fait, tout simplement ? Et je pense vraiment que le Rassemblement national gagnerait, à essayer d'être plus rassembleur. Je suis désolé, il ne me montre pas sur le plan de la stratégie électorale et même la manière dont est traité Éric Ciotti. Alors, ils s'entendent bien, hein, humainement, Éric Ciotti, Marine Le Pen, Jordan Bardella, mais qu'est-ce que l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, a vraiment gagné sur le plan programmatique comme avancée en étant un allié du Rassemblement national Qu'est-ce que le Rassemblement national fait pour s'attirer les bonnes grâces de Nicolas Dupont-Aignan, qu'il ne sert à rien de maîtriser, même s'il est qu'à 2%, mais qui est quand même...
Bah c'est 2% de plus.
Voilà. Quelle est la stratégie ?
Quand une entreprise fait des affaires, elle n'élimine pas tous les petits produits sous prétexte que ce n'est pas ceux qui font les meilleures ventes. C'est la somme des ventes qui font le...
Quelle est la stratégie du Rassemblement national pour s'attirer un nombre conséquent d'élus LR qui s'interrogent sur la stratégie de leur propre parti et aussi quelle est la stratégie du Rassemblement national pour élargir son socle électoral. Alors honnêtement, ça se voit quand même pas mal chez Jordan Bardella, que ce soit quand il parle devant le MEDEF ou plus récemment à la télévision, qui essaye d'élargir son socle. Voilà, je pense qu'ils ont quand même, c'est leur... chance et leur force, et ils ont de la réserve électorale sous le pied parce qu'ils n'ont pas du tout fait le plein aujourd'hui de tous les électeurs de droite de ce pays, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et cependant, Tuc Dual-Denis, permettez-moi de continuer à m'interroger sur cette échéance présidentielle et ensuite les législatives qui évidemment viendront. Ce que nous ont appris quand même les deux dernières mandatures, c'est que à Epsilon qui bouge, et contrairement à ce que on nous avait raconté à gauche comme à droite, il n'y avait pas la moindre chance qu'il y ait une majorité absolue pour le Rassemblement national et ses alliés. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que quel que soit, il me semble, le vainqueur de l'élection présidentielle de 2027, il y a des législatives après. Et là aussi, modulo un effet plus ou moins grand pour le vainqueur, que ce soit Mélenchon, un homme ou une femme du bloc central, ou le Rassemblement national, il y aura toujours les trois blocs. Et il me semble que c'est une vérité profonde aujourd'hui que quand on parle d'un pays fracturé, c'est que simplement nous sommes dans trois blocs qui sont aujourd'hui irréconciliables, un bloc national, un bloc central et un bloc d'extrême gauche, hein, et que donc ça a deux conséquences. La première, à mon avis, c'est qu'il y aurait peut-être, à mon avis, un vrai discours. Il faudrait tendre le bras pour dire, comme Giscard d'Estaing, les deux Français sur trois. Moi, je pense que c'est un homme de droite qui ferait ça. Il gagnerait en disant, voilà, compromis nationaliste, vous les macronistes, vous voulez que ça se passe bien pour les affaires, ben, nous aussi. Mais les affaires, ça ne peut pas bien se passer quand le pays est à feu et à sang et s'effondre. Bon, on est d'accord là-dessus. OK, compromis nationaliste, on y va. Mais je pense que ça n'arrivera pas. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes donc dans un pays ingouvernable. Et que donc, pour la troisième fois, pour une troisième mandature, on va avoir un pays ingouvernable. Or, aujourd'hui, la scène internationale, la scène économique, et on pourrait parler, justement, puisque vous aimez bien François Fillon, de ces enjeux, quand même, de notre dette et d'autres sujets. Pour le moment, on nous fait le crédit qu'on attend de voir, puisque nous sommes dans un entre-deux politique, il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Mais après l'élection présidentielle, si de nouveau le pays est ingouvernable, je pense que ça ne va pas très très bien se passer.
Moi, je pense quand même qu'on disait ça d'Emmanuel Macron en 2017, qu'il avait gagné par effraction la campagne présidentielle et qu'il n'arriverait pas à avoir de majorité. Et on a été très étonnés de voir, y compris dans des circonscriptions vraiment ancrées UMP, RPR et puis LR, finalement des candidats macronistes l'emporter. Et souvenez-vous de la composition d'ailleurs de l'Assemblée en 2017 après l'élection d'Emmanuel Macron, avec énormément de primo-députés, des gens qui avaient... voilà, à peu près aucune expérience politique, et c'était presque troublant. Donc je pense à la capacité du Rassemblement National, moi, s'il gagne l'élection présidentielle, à profiter de cet élan pour avoir une majorité aux élections législatives. Ils ont quasiment réussi, alors qu'il y avait un Front Républicain contre eux lors de la dissolution, et sur une élection qui était quand même... avec moins d'élan que pourrait leur donner une victoire à l'élection présidentielle. Et après, je crois surtout que, plus fondamentalement, sociologiquement, et c'est ça aussi l'enjeu du RN ou d'une personnalité de droite, d'un parti de droite qui arriverait en tête à l'issue d'une élection présidentielle, c'est que je crois vraiment que culturellement, politiquement, le bloc central est beaucoup plus proche du bloc national que vous décrivez que de la... post-gauche, Nouvelle-France.
Je suis mille fois d'accord avec vous, d'où ma proposition.
Je connais un certain nombre d'électeurs d'Emmanuel Macron, peux vous dire, qui pensent qu'on paye trop d'impôts, que la dette c'est un sujet, et qu'il y a 10 fois trop d'immigration dans ce pays.
Je suis entièrement d'accord. Et je ne comprends pas que le Rassemblement National ne l'ait pas compris.
Bah, c'est pour ça que tout à l'heure, voilà, je disais qu'effectivement, il faut qu'il soit rassembleur, il ne faut pas qu'il soit dans une stratégie d'hégémonie, et tout le monde a tort, et il n'y a qu'on a raison, et qu'il y a plein de... Et c'est une fois de plus, leur bonne nouvelle, c'est qu'ils ont une énorme réserve de voix, si tant est qu'ils trouvent le chemin pour y parvenir, ou si c'est incarné par un autre parti politique qui effectivement trouvera cette martingale qui me semble pas, alors c'est facile
mais
à dire,
qui ne semble pas impossible,
insurmontable à trouver, c'est-à-dire une énorme fermeté sur les sujets régaliens, et en même temps
un énorme pragmatisme sur les sujets économiques et même sociaux,
et sur l'exécution du programme, quoi.
Et justement, si je puis me permettre, nous allons un tout petit peu défendre le macronisme à cette antenne. La grande intelligence de Macron, ça avait été de dire que les Français voulaient encore une minute, monsieur le bourreau. Donc, ils ne voulaient pas encore de cette France fracturée. Et donc, le « en même temps » marchait. Parce qu'on disait à la droite qu'on allait être un peu à droite, et on disait à la gauche qu'on allait être un peu à gauche. Mais au-delà de donc, il faut essayer de comprendre les ressorts profonds. On peut moquer ce que cela révèle d'absence de colonne vertébrale. Mais d'un point de vue politique, c'était légitime et ça avait du sens à ce moment-là. Je pense qu'aujourd'hui, justement, le Rassemblement national ne me paraît pas prêt à ce « en même temps » qui est décisif. Et en plus, il me semble beaucoup plus légitime que ne l'était Emmanuel Macron pour dire, c'est ce que j'appelle, par formule un peu provocatrice, le compromis nationaliste, en disant aux électeurs du centre et même du centre-gauche, écoutez, je vous ai compris. Je vous ai compris pour les sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, si la France revenait dans la Troisième République gouvernée par des francs-maçons, la plupart des Français seraient très contents, y compris l'extrême droite la plus radicale. Le problème, c'est que nous avons changé de monde et d'univers, et on voudrait juste retrouver cette France-là, Tugdual Denis.
Je pense quand même que ça, c'est l'intuition de Jordan Bardella aujourd'hui. On voit bien qu'il essaye d'ouvrir le champ des possibles. Je suis très curieux de voir si c'est Marine Le Pen qui est candidate à l'élection présidentielle. Quelle va être sa démarche? Ça sera quand même sa quatrième campagne. Je pense que voilà, elle a sûrement beaucoup appris de tout ce qui s'est passé avant. Et j'ose imaginer quand même qu'ils auront une démarche plus rassembleuse que ce qui a pu avoir lieu par le passé.
Tuc Dual-Denis, voulez-vous un mot de conclusion pour nos auditeurs?
Bah écoutez, je voudrais leur affirmer un message de tendresse, parce que je sais que c'est parfois difficile de vivre la vie qu'on mène tous. On a l'impression que nos idées sont caricaturées, que on n'a pas forcément voix au chapitre, c'est compliqué quand même, hein, de vivre dans cette civilisation contemporaine où il y a tant de choses qui ont été malmenées, tant de valeurs qui sont piétinées, tant d'héritages qu'on nous interdit de célébrer. Et en même temps, je pense qu'on finira par nous le reconnaître, qu'on aura chacun... modestement essayer de contribuer non pas à quelque chose d'incroyablement héroïque ou d'incroyablement original, mais simplement normal et louable d'une petite préservation de quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qui est une France raisonnablement apaisée et qui aime bien se regarder en face, qui aime bien ce qu'elle est, qui aime bien son histoire, qui aime bien ses codes sociaux, qui aime bien à ce à quoi elle ressemble. Et voilà, j'essaye de rendre hommage à cette France-là.
Tuc Dual-Denis, merci beaucoup. Merci pour ce message d'espoir. Je pense qu'il va en effet, comme vous l'avez dit, toucher nos auditeurs. Je rappelle, Tuc Dual-Denis, La cendre et le feu. Enquête intime au cœur de la droite française, aux éditions Robert Laffont, et qu'il faut lire. Amis auditeurs, à dans 4 semaines.
Vous venez d'entendre le libre journal d'Hugues Sérapion, émission préenregistrée le 10 juin 2026, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 18 juillet, de midi à 13h30, et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.